commerçant, au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Et nous sommes le premier lundi du mois de mai, et comme tous les premiers lundis, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission consacrée aux revenus de base avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Oui, bonjour Max. En fait, j'ai un coup de soleil, je me suis pris un coup de soleil à la manif hier, horrible.
On y croit, on y croit.
Je suis blonde, tu vois ça ? Et toi Max, ça va ?
Oui, très bien.
Nous allons aborder aujourd'hui un sujet super intéressant et on a invité pour ça Bernard. Figure-toi que j'ai décidé de faire un pont entre le 1er mai, la fête du travail. Alors on pourra peut-être réfléchir, travailler sur le mot travail, hein, parce que au fait c'est quoi une fête du travail, et d'autres journées internationales. En fait je me suis amusée à regarder toutes les journées internationales mondiales qu'il y avait dans le coin. Mmh. Bah, figurez-vous qu'il y a eu le 22 avril la journée mondiale de la Terre. Il y a eu le 28 avril, la journée mondiale de la santé et la sécurité au travail, justement. Et le 16 mai, c'est la journée mondiale du vivre ensemble. Je me suis dit, mais voilà, mais en voilà un sujet. Donc voilà, on va parler de ça. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Bienvenue. Alors on va te passer à la moulinette de notre question rituelle. Donc imagine, alors bon, on peut tout de suite déflorer le sujet que tu es retraité. Pensionné,
oui, tout à fait.
Pensionné de l'État, comme on dit. Donc imaginons plutôt pour l'avant, imaginons si tu avais eu un revenu de base, donc tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre, à ton nom, ça tombe, il n'y a rien à faire, c'est inconditionnel, tu bosses pas, tu l'as, t'es marié, t'es pas marié, tu l'as, t'es un homme, t'es une femme, ou quelle que soit ta religion, ton âge, etc., tu l'as. Qu'est-ce que ça aurait changé pour toi ?
Bah, je pense qu'au début de carrière, ça aurait... changer, certes. Bon, j'aurais continué évidemment à travailler parce que quand on a la chance d'avoir un métier qui est, comme on a dit, essentiel, là, on l'a vu, c'est quand même ces derniers temps avec les questions de santé sur cette pandémie.
À l'hôpital, oui.
À l'hôpital, donc c'est un travail à la fois passionnant, même difficile aussi, mais c'est un travail qu'on fait parce que c'est, je dirais, presque une vocation, quoi. Oui. C'est vrai qu'au début, ça aurait pu changer le fait de pouvoir faire plus de choses à côté, d'avoir un supplément de revenus.
Oui, parce que tu racontais quand même que tu avais fait beaucoup de travaux dans la maison, etc.
Oui, enfin, c'est
ça. Il y a un certain nombre de loisirs, entre guillemets, qui étaient consacrés finalement à des travaux, voilà, que vous pouviez pas vous
offrir. Ça aurait permis de se libérer en partie de ça et du fait... de fournir du travail à d'autres personnes, des artisans, etc. Mmh. C'est-à-dire, comme on a beaucoup parlé, dire partager le travail, quoi. C'est une façon de partager le travail. C'est vrai que quand on n'a pas trop les moyens au début, on fait beaucoup soi-même, un peu aussi aux dépens des loisirs, aux dépens du lien avec la famille, bien que moi, ça a toujours été quand même une priorité de préserver ça.
Oui, donc en fait, tu aurais continué à travailler à temps plein parce que ton métier, c'est quelque chose qui a du sens et que tu avais choisi et qui t'éclatait malgré des difficultés. Alors, c'est plutôt quoi dans la santé, les difficultés que tu as pu vivre
La difficulté, c'est que, bon, moi, j'étais dans le secteur public et, bon, chacun a pu quand même se rendre compte que depuis quelques décennies, les pouvoirs ne cessent de dégrader notre service public de santé, notre sécurité sociale. On le voit avec les projets aberrants là de réforme des retraites. Ouais. Tout ça parce que derrière, il y a quand même de gros investissements sur les établissements de santé privés, qu'on appelle à tort hôpital, parce que pour moi, l'hôpital, c'est public ou ça ne l'est pas. Donc, il y a beaucoup d'intérêts financiers derrière, et les pouvoirs successifs qu'on a vus ces derniers temps fonctionnent essentiellement dans l'intérêt de ces gens-là, quoi. Donc, démolir l'hôpital public pour faire du profit derrière. Donc, après des restrictions, je disais tout à l'heure, là, Max, on a l'hôpital de Roubaix a déclenché, ainsi que d'autres hôpitaux, le plan blanc. Le plan blanc, c'est un plan qui, en cas de grande catastrophe ou d'épidémie, met en fait l'ensemble des personnels à disposition en cas de besoin. Donc les gens peuvent être appelés à n'importe quel moment. Mais c'est la première fois dans l'histoire que le plan blanc est déclenché pour des manques de personnel, des pénuries de personnel.
Ah.
C'est-à-dire avec la suite du Covid, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup des personnels qui ont perdu pied ou qui ont...
Oui, ça faisait beaucoup de pression et puis un
rythme
fou.
Qui ont fait du burn-out, etc. Mm-hmm. Et l'hôpital, vu sa dégradation régulière, est de moins en moins attractif. J'entendais là aujourd'hui, une infirmière en Suisse est payée 3 fois le coût d'une infirmière en France, quoi. Donc, forcément.
Ça donne envie de déménager.
Oui, à la fois déménager. Je pense pas que tout le monde puisse aller en Suisse, mais bon, c'est pas très attractif, même si je crois dans le privé, c'est certainement encore moins attractif parce que les conditions de travail sont, j'ai pu constater qu'elles étaient énormément plus difficiles. Difficile encore, puisqu'il n'y a pas la sécurité de l'emploi derrière, de fait.
Alors effectivement, je te remercie de faire... Il y a un avant et un après Covid, alors surtout dans la santé, mais pas que. On voit aux États-Unis qu'il y a une sorte de pandémie de démission qui commence à atteindre la France aussi, donc dans certains secteurs. Alors on a entendu parler effectivement de la restauration qui était obligée de payer mieux pour pouvoir recruter, mais il y a plein de secteurs, moi je peux parler des profs, etc. Voilà, des gens qui n'en peuvent plus juste et qui ont touché le bout avec cette situation. Et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est que tu es syndicaliste. Donc, on l'a peut-être deviné un petit peu dans ta façon de parler. Mais la première fois que tu as entendu parler du revenu de base, ta réaction a été comme, en tout cas, la réaction que je peux entendre, notamment hier encore chez quelques-uns, beaucoup moins, on y reviendra. Mais voilà, les syndicalistes, le revenu de base, c'est pas une folle histoire d'amour quand même.
C'est vrai que c'est difficile pour un syndicaliste qui, de par sa mission, je dirais, défend le droit du travail. Mais moi, je pense que c'est pas incompatible. C'est vrai qu'au début, j'ai eu cette première réaction de dire, gagner de l'argent sans travailler, ça paraît un peu aberrant. Mais quand on regarde aujourd'hui, puis depuis très longtemps d'ailleurs, la situation du chômage ou la situation des personnes soit qui sont en situation de handicap ou pour différentes raisons, raisons de santé, qui sont hors de l'emploi.
Ou juste parce qu'il n'y a plus assez d'emplois. Enfin,
ou aujourd'hui qu'il n'y a plus assez d'emplois.
Quoi qu'on dise,
il y a de l'emploi, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Puisqu'on a effectivement, avec le progrès technique, on a mécanisé, etc. On mécanise de plus en plus avec l'informatique. Les emplois ont disparu. Maintenant, on peut penser beaucoup d'autres emplois aussi, soit dans les services ou ailleurs. Je pense aujourd'hui, avec la question climatique, il y aurait un gros intérêt à créer de l'emploi et de l'activité dans la rénovation des bâtiments, qui est quand même, avec les transports, une des principales sources de dérèglement climatique aujourd'hui, et puis de production de CO2 et autres gaz à effet de serre.
Tout à fait. Alors, ce qui m'intéresse pour l'instant, si tu veux bien, on va rester sur les syndicalistes, parce que du coup, toi, tu as fait un chemin. Donc, j'entends qu'un des freins des syndicalistes, alors on parle des syndicalistes en général, on va pas spécifier tel ou tel syndicat, mais globalement, en France, pour l'instant, il n'y a aucune centrale syndicale qui se positionne pour le revenu de base. Il y en a qui sont en train de réfléchir. Il y en a qui vont aller plutôt vers peut-être le salaire à vie, qui est une version plus... clairement plus anticapitaliste. Et encore, c'est pas promu quand même dans les textes officiels des syndicats. Et on voit que la base est beaucoup plus convaincue finalement que en haut. Et alors du coup, quels pourraient être les freins? Donc, j'ai entendu quelque chose un peu de sorte de la valeur travail finalement, du fait de décrocher le revenu du travail, ça pourrait déjà être un frein ou un pas à faire, c'est ça?
Je pense que le revenu du travail, quelque part, il faut quand même le défendre parce qu'il est valorisant.
Dans quel sens?
Je pense.
Je me tourne vers
Noémie. À partir
du
moment où, bon, moi, Noémie c'était Martin mon cas d'avoir quand même un emploi utile et, je dirais, nécessaire, essentiel dans la société, c'est pas le cas de beaucoup d'emplois, surtout aujourd'hui, hein. Des bullshit jobs, voilà, je cherchais le terme, qu'on a créé énormément. Donc, mais valoriser en fait sa place dans la société en créant quelque chose, en étant utile dans la société et gagner sa vie par cette façon-là, je pense que ça, c'est très valorisant.
En termes de dignité, de reconnaissance.
De dignité, oui, puis d'utilité dans la vie. Je pense que l'emploi, enfin le travail en général, bon, je pense qu'il faut dissocier un peu cette notion de travail et d'emploi.
C'est ça.
Le travail, c'est quand même, c'est de créer quelque chose. On peut créer quelque chose sans être forcément dans un emploi. Et je pense que beaucoup de gens le font dans les associations, dans les valeurs artistiques, etc.
Là où il n'y a ni forcément de rémunération spécifique, donc bénévolat, etc., ou même chez soi, ni de contractualisation, en fait.
Voilà, je pense que c'est plus dans ces créneaux-là où le revenu de base aurait plus sa place. Maintenant, un revenu de base, tel qu'il est présenté là, il doit être universel, donc tout le monde doit l'avoir, sinon ça crée beaucoup de problèmes de discrimination. Comment on juge qui y a droit, qui n'y a pas droit. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il soit quand même universel. Mais je pense que c'est pas incompatible avec justement cette idée des syndicats, de la valeur travail. Tu parlais du salaire à vie. Moi, c'est aussi une notion que je défends. Avec, il y a aussi, je pense, des restrictions aussi, parce que le salaire à vie, on peut effectivement dire la même chose. À partir du moment où on a son salaire à vie, qu'on travaille ou qu'on ne travaille plus, peut éventuellement aussi, entre guillemets, inciter à ne pas trop se décarcasser pour retrouver un emploi. Donc, bon, on retrouve les mêmes limites qu'on peut donner aussi aux revenus de base. Bon, je pense que c'est un faux problème, parce que, comme je disais, justement, les gens ont besoin d'être utiles dans la société, ont besoin d'avoir cette reconnaissance, puis vis-à-vis des autres aussi, parce que bon, c'est difficile aujourd'hui des gens qui sont hors de l'emploi. Alors, pour des questions de contexte, aujourd'hui, ça, il faut aussi changer les mentalités là-dessus. Mais ceci dit, que ce soit un revenu de base ou un salaire à vie, je pense que cette notion ne va pas seule. Ça doit être une ouverture à d'autres acquis sociaux. Déjà, sans nier les acquis sociaux aujourd'hui, ça, moi, je les défends pied à pied, effectivement. Mais après, ça doit être aussi une ouverture pour d'autres des droits sociaux plus larges.
Mais donc, en fait, le revenu de base, ce serait le pas suivant d'une protection sociale, mais qui, de toute façon, s'enrichirait à un projet social plus global. En fait, c'est qu'un outil, quoi, le revenu de base.
Voilà, une vision après politique différente de celle qu'on nous impose là depuis très longtemps, qui est la vision de profit, quoi. Hein. Qui nous est imposé par l'Europe, d'ailleurs.
J'ai envie de rebondir sur certains exemples, parce qu'effectivement, je me souviens que, pour avoir rencontré on a parlé le mois dernier des personnes qui sont sans travail, qui sont accompagnées en insertion, avec des témoignages aussi d'agents sociaux. Et en fait, on voit qu'ils ont envie de travailler, surtout pour une question de dignité, trouver leur place, alors que dans leur propre vie, ils ont des tas d'espaces, d'actions, d'activités où ils sont très utiles, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les voisins, que ce soit dans des associations, etc. Et ce qui les bride, c'est pas tant le fait d'avoir des compétences ou pas, justement, c'est juste le fait d'entendre toujours qu'ils sont inutiles, et en fait c'est ça qui casse la volonté, qui casse l'estime de soi, etc. Donc là, on a parlé des gens qui n'ont pas de travail, et donc avec un revenu de base, comment ça pourrait jouer, mais on peut parler aussi des gens que les syndicats accompagnent, c'est-à-dire ceux qui sont en poste de travail, alors public, privé, en ce moment, voilà, ça, en termes de management, ça se rapproche beaucoup, et qui, par contre, souffrent de leur travail, ça peut être des accidents de travail ou des risques professionnels divers, mais on peut parler des risques psychosociaux. J'ai envie qu'on reprenne un petit peu la définition, les facteurs de risques psychosociaux, donc il y a l'intensité et le temps du travail. Donc que ce soit des travaux physiquement ou émotionnellement tendus. Il y a les exigences émotionnelles, Il y a la faible autonomie du travail aussi, c'est-à-dire que le fait qu'on soit cantonné dans une tâche avec pas de libre arbitre, on ne reconnaît pas le fait qu'en tant que travailleur, on a une compétence, on maîtrise notre métier. Donc là, le terme de métier par rapport aux compétences des choses qu'on connaît, par rapport aux gestes professionnels. Il y a aussi des rapports sociaux dégradés, alors que ce soit entre collègues, mais surtout avec la hiérarchie, des conflits de valeurs aussi notamment, donc par exemple des boîtes qui font du service ou même commercial, et en fait on arrive en leur disant non mais le client n'est plus roi, maintenant c'est l'actionnaire, et l'insécurité de la situation de travail, là on parle plus de la précarisation. Et donc tous ces facteurs font qu'il y a effectivement depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, mais voilà, en ce moment ça se sent d'autant plus, que les conditions de travail se désagrègent, on sous-traite, on passe d'une boîte à l'autre, et le chantage à la fin et au travail se fait de plus en plus fort, quoi, avec la stigmatisation de tout ce dont on vient de parler qui tombe, entre guillemets, au chômage, avec un chômage systémique.
Et aujourd'hui, ça dégrade quand même de plus en plus avec la notion d'ubérisation. Mmh. C'est-à-dire qu'on... Ça a commencé avec les auto-entrepreneurs. Hein, quand on a créé l'auto-entrepreneur, ça donnait l'idée aux gens qui pouvaient être leur propre patron, comme un artisan. Mais lui, il est installé, il a pignon sur rue, il a un métier, et il a sa clientèle, il a son activité. L'auto-entrepreneur, beaucoup ont tendance un peu à faire un peu n'importe quoi, ou au-delà même parfois de leurs compétences, parce qu'ils n'ont rien d'autre, quoi. Donc, mais ils sont contraints de plus en plus, mais contraints par eux-mêmes. C'est-à-dire que le rapport de hiérarchie, il n'y a pas une hiérarchie directe qui leur impose le travail, c'est eux-mêmes. Ils deviennent eux-mêmes leurs propres patrons, leurs propres, je dirais...
Dictateurs intérieurs. Dictateurs,
voire harceleurs. Et c'est ce que disait Étienne de la Boétie au XVIe siècle, hein, dans son discours sur la servitude volontaire. Et bon, ça fait des siècles que les philosophes nous en parlent, et aujourd'hui on en est de plus en plus là encore. Et là, c'est vraiment la servitude volontaire, l'ubérisation du travail. Quand on est sous domination d'une hiérarchie, on a possibilité de se défendre, puisqu'on a des syndicats. Les auto-entrepreneurs ou ubérisés n'ont pas de syndicats. C'est pour ça qu'il y a quand même un gros combat aujourd'hui pour faire reconnaître le salariat pour des personnes qui sont dans une situation ubérisée d'auto-entrepreneurs, mais qui sont sous une dépendance quand même d'une autorité. Et ça, la dépendance à une autorité est significative d'un emploi. Donc ces personnes doivent être salariées. Et ça, il y a quand même pas mal de procès aujourd'hui qui vont dans ce sens-là, et heureusement.
Oui, d'ailleurs, ils viennent de gagner le procès, puisque Uber vient d'être condamné pour, en fait, forme de travail déguisé. Alors.
Oui, je vais proposer une petite pause musicale. Figure-toi, une chanson des Malpolis qui s'appelle On veut pas du travail, et qui devrait plutôt s'appeler On veut pas d'un emploi, si j'ai bien compris. Mais allez, on veut pas du travail, c'est parti.
On vous écoute, les Malpolis, dans Expresso. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard quand tu seras grand? Je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurais pas le temps de faire ce que j'aime. De bilan, de compétences, en stage de formation. Tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron. Y en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job qui a l'air chiant comme l'enfer et payé pour ça. C'est parti, tu vas produire de la merde en tube et leur fourguer à les pauvres gens avec un peu de pub. Dans un atelier, devenir plus con qu'une machine. Jusqu'au jour où en arrivant, y a même plus l'usine. Il paraît qu'on veut redonner goût au travail en France. Alors faut trouver un goût sucré comme les vacances. De toute façon, nous on a déjà trop de trucs à faire. Chouette, utile et rigolo, qui valent mieux qu'un salaire.
veut pas du travail, on 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 veut pas du travail. On n'est pas des tirs au flanc, parasites et salauds. On fait ça pour le pays, l'idée nous vient d'en haut. Une entreprise monte en bourse quand tu licencies. Comme quoi ne pas bosser, c'est bon pour l'économie. Avec tout ce qu'on produit, sans parler de tout ce qu'on jette. Pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette. Se trouver un toit même en ne bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télé, ils y retournent le mardi. On veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail. Na 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 na, 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 on veut pas.
Tu sais que tout le monde commence à s'inquiéter au travail. T'es parti en congé ?
Non, non. À cause du coronavirus, je suis en quarantaine. J'ai fait un beau voyage en Italie. Ensuite, un petit détour par Pékin. Je suis censé reprendre le boulot lundi, mais je n'en ferai rien. Je ne peux pas travailler, je dois rester confiné. Mon patron l'a ordonné, alors je glande. Je dois rester chez moi pendant 15 jours. Je m'occupe, dans mon sac j'ai plus d'un tour. Paraît que le virus ne supporte pas l'alcool, alors je m'y colle. Je ne peux pas travailler, je suis tout le temps bourré. Je vais quand même être payé par la sécu. J'hésite parfois à sortir de chez moi pour propager mon bonheur. Si tu me vois, embrasse-moi, rejoins la ligue des glandeurs. Je ne peux pas travailler, je dois rester confiné. Je me resserre une tournée. À votre santé.
Bon, allez, on trinque. Ouais, tiens, allez, bon.
Allez. Je ne veux plus du métro boulot dodo, craindre demain, attendre en vain que ma retraite vienne, perdre ma vie à la gagner, être malade du travail ou du chômage. J'aimerais travailler moins pour voir mes enfants grandir et m'occuper de mes parents malades, faire du bénévolat dans une asso, un syndicat, un parti, me former toute ma vie pour évoluer dans mon boulot, partir en vacances, faire du sport, de la musique, vivre plus lentement et cultiver mon jardin.
Donc ça, c'était pour monsieur.
Voilà, c'est ça. Ah oui, parce que tu veux que je lise madame tout de suite.
Eh bien, on va faire madame dans la foulée.
discrimination.
Eh bien, allons-y. Alors, madame, elle est où? Elle est située juste là.
Madame May,
je ne veux plus des conditions de travail subies, d'inégalités salariales, de misère qui pousse à la prostitution, pas toutes les madames quand même, ni précarité, ni peur du lendemain. J'aimerais négocier mon temps de travail, lancer ma propre entreprise, me former quand j'en ai besoin, équilibrer ma vie professionnelle et familiale, la reconnaissance des tâches ménagères, éducatives et bénévoles.
Merci beaucoup, Max, d'incarner ces herbistes du mois que vous pourrez retrouver sur le site revenudebase.info. Alors, j'ai envie de repartir pour rebondir un peu sur ce qu'on disait en première partie, sur le slogan « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Parce que c'est un peu ça, le revenu de base, finalement. On se dit, le premier impact, c'est « Ah, je vais pouvoir faire ce qui me plaît ». Effectivement, dans le revenu de base, il y a cette espèce de conjonction entre l'égalité, puisque tout le monde le reçoit, pareil, et une forme de liberté aussi, puisque on nous fait confiance, on en fait ce qu'on veut. C'est pas des bons d'achat pour un paquet de tomates. On en fait vraiment ce qu'on veut, selon notre milieu de vie, selon nos choix, selon notre famille, etc. Mais il y a un mais, on a commencé tout à l'heure à parler des freins, et spontanément, il y a quand même deux limites qu'on va mettre, principalement en plus aujourd'hui. Le premier, c'est, mais quand même, ça serait bien que les gens restent en lien avec les autres et participent. Donc ça, c'est la fameuse valeur travail, que j'exclus de la valeur emploi, dont on vient de parler. Mais plus généralement, on a tous envie, effectivement, qu'il y ait quand même une forme de réciprocité, une collaboration, une coopération pour se partager toutes les tâches qui sont nécessaires, alors que ce soit pour éduquer, pour la santé, on a dit, mais aussi les poubelles, la fabrication, etc. Et le deuxième point qui émerge de plus en plus ces derniers temps, c'est le respect aussi de notre environnement. Donc on souhaiterait que cette nouvelle liberté soit bien utilisée. Alors je vous rassure, dans les expérimentations, c'est bon. On voit partout dans le monde que dès qu'on fait des expérimentations, on donne de l'argent aux gens plutôt que de leur dire maintenant on vous donne la possibilité de nourrir vos enfants ou de les vêtir ou de les envoyer à l'école ou de faire tels travaux. En fait, en leur donnant juste de l'argent, et les ONG le font maintenant, c'est beaucoup plus facile en termes de logistique. Et les gens les utilisent de façon tout à fait sérieuse et en rapport et en respect avec eux-mêmes, avec les autres et avec leur environnement. Donc ça, normalement, ça devrait être un doute écarté. Et on le voit aussi dans toutes les personnes qui reçoivent finalement déjà une forme de revenu de base. Bernard, je vais me permettre de faire un parallèle. Et toi qui es à la retraite, finalement, est-ce que tu passes ta retraite dans ton canapé à regarder Netflix ? Avec, on imagine, un gros paquet de chips, un petit bidon qui commence à pousser et des pantoufles.
Bon, il y a peut-être de temps en temps un petit peu ça, mais non.
Mais non. C'est les pantoufles, c'est ça.
Mais non. Quand je parlais tout à l'heure, je demande d'être utile dans la société et une reconnaissance. Ça ne s'arrête pas au moment de la retraite. La retraite, c'est le moment où, justement, on peut faire plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire quand on était à la fois dans l'emploi et aussi dans une vie de famille riche qui prend quand même beaucoup de temps. Donc la retraite permet justement là de développer d'autres activités. Moi personnellement, je fais du sport, je suis investi dans des associations, je suis responsable de randonnée. Donc ça c'est aussi une activité qui est écologique, qui permet aussi de
protéger des sentiers,
de découvrir la nature et puis aussi d'en prendre conscience. Et de défendre la nature, justement, d'être proche de ça. Et ici, depuis un moment, je suis même investi au niveau de la commune, puisque la commune où j'habite a racheté une propriété, une maison avec un grand jardin et puis un grand terrain et un bois qui est sauvage depuis plus de 30 ans. Donc, des habitants ont été sollicités pour travailler un petit peu sur ce projet-là, pour préserver cet espace au cœur de la cité. Avoir un espace comme ça, un petit bois sauvage, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ça fait quand même quelques mois qu'on travaille là-dessus pour préserver sa biodiversité, comment aussi on va la rendre accessible, principalement au niveau pédagogique, pour accueillir des enfants aussi dans cet espace. On a proposé de créer une mare qui est un point très important de la biodiversité, un espace aussi pour attirer des insectes, etc. Enfin voilà, ça en plein cœur d'une commune, c'est quand même sympa, plutôt que d'avoir des grands immeubles, même s'il faut aujourd'hui essayer de loger un maximum la population. Non, je pense que la retraite, c'est un moment privilégié. Et quand je vois aujourd'hui qu'on essaye de la retarder le plus possible, en sachant aujourd'hui c'est 25% des salariés les plus pauvres qui n'en profitent pas parce qu'ils sont morts avant 62 ans. À 65 ans, ce sera un tiers. Donc ça, et alors que réforme qu'on veut nous imposer, soi-disant parce qu'on vit plus longtemps, et ben c'est totalement sur un mensonge et c'est totalement démenti par l'organisme d'observation des retraites qui fait référence justement le COR aujourd'hui, le COR. Ça fait référence et démonte complètement l'argumentation de rallonger l'âge de la retraite et la durée de cotisation.
Oui, puis si on regarde toutes les associations qu'il y a en France, c'est quand même un pays qui est très riche de ça. Il y a quand même 2/3 des heures de travail qui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas sous contrat de travail ou d'emploi, notamment le biais associatif. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans les retraités? Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes actives dans le sens de personnes qui ont déjà un emploi et qui s'investissent dans les associations où tu agis. Mais en général, c'est quand même beaucoup moins parce qu'il y a...
Parce que les retraités, effectivement, ont du temps. Là, je veux dire, dans cette démarche-là, sur cette propriété, il y a effectivement quelques personnes plus jeunes, mais qui sont là un peu pour proposer des prestations animation pour les enfants qui seraient, pour eux, rémunérés avec un contrat, quoi. Donc, eux sont plus, je dirais, en recherche quand même d'un revenu. Mais pour... Oui. Voilà. Alors que nous, les retraités qui se sont investis dans ce projet... Alors nous, on a surtout envie de préserver ce lieu, d'être utile et de pouvoir, d'être reconnu aussi au niveau de la commune. Je pense que c'est important aussi.
Oui, puis du coup, c'est un piège parce que ces personnes qui ont besoin d'être actives pour en vivre, simplement, elles ont besoin d'un salaire. Si jamais il n'y a pas d'argent, parce que c'est quand même des frais, c'est des postes assez lourds pour une mairie, quelle que soit sa taille. Ben du coup, elles vont pas pouvoir faire les activités, alors que si elles avaient un revenu de base, elles pourraient du coup négocier ou faire une partie du temps. Enfin, ça peut être complété avec. Ça dépend évidemment du niveau du revenu de base et de ce que les citoyens choisiraient comme version, comme projet de société. Mais en tout cas, ça fluidifierait beaucoup tout ça et on le voit aussi dans les expérimentations. Je pense à la Namibie ou au Canada. On pourrait toujours aller voir la carte des expérimentations sur revenu-de-base.info, mais où on voit bien que le fait de donner un revenu de base, ça fluidifie justement tous ces secteurs qui galèrent beaucoup plus. Max pourrait nous parler aussi de la culture, qui galère à avoir des financements parce que c'est pas rentable, alors que c'est ô combien essentiel. Nous sommes tous essentiels, évidemment. J'ai envie de vous proposer un petit exercice suite à une émission, puisque j'ai été interviewée par... le groupe d'attaque Reims, dans une émission qui s'appelle La Tactique. Et en fait, on a essayé de faire un petit pas de côté dans nos vies pour savoir, parce qu'il me posait la question, mais est-ce que les gens sont prêts pour un revenu de base aujourd'hui? Je dis, bah, écoutez, je suis pas dans la tête des gens, on va leur demander. Et donc, ce que je vous propose là aujourd'hui, ici dans le studio et vous aussi auditeurs, c'est par rapport au travail en particulier, mais vous pourrez faire l'exercice par rapport, je sais pas, à votre couple ou votre belle-mère plus tard. Mais c'est l'idée de, tiens, quand je pense à mon travail, à mon emploi ou mes activités en général, est-ce qu'il y a des « il faut » ou des « je dois » qui arrivent? Je vais prendre comme exemple mes élèves, puisque j'ai fait ça aussi dans ma classe. Et vous cherchez votre propre phrase dans votre tête. Donc par exemple, j'ai un élève qui me dit « de toute façon, l'école, ça sert à rien ». Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui disent « moi, mon métier, il sert à rien ». Et en fait, cet élève-là me dit, si je viens, c'est juste parce que si je viens pas, mes parents vont m'engueuler. Ah, Et alors, du coup, tu fais le choix de venir. Ah non, je suis obligé. Ben, tu fais quand même le choix de venir, parce que sinon, tu pourrais fuguer. On en connaît, des gamins qui, à 13 ans, ne viennent plus à l'école. Alors, qu'est-ce qui fait que tu viens quand même? Non, parce qu'en plus, ils nous saoulent en classe, forcément. Hein, ça a des conséquences. Et en fait, du coup, on est arrivé, avec l'aide des autres, à se rendre compte que un des leviers pour certains gamins, et malheureusement, c'est le seul, c'est même plus l'amitié de venir voir les copains, c'est juste la paix. C'est juste la paix. C'est d'être tranquille quand ils rentrent à la maison. Donc en fait, ils s'achètent la paix sociale en venant assister aux cours qui n'ont aucun sens pour eux, peut-être parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ont des difficultés, pour plein de raisons. Et en fait, la question c'est, mais vous adultes, quand vous retrouvez devant votre emploi, si vous en avez un, est-ce que vous avez aussi des « il faut, je dois » du genre bah, « il faut bien que je travaille pour gagner ma croûte ». Et alors si vous avez juste et que cette motivation-là, mais regardez quelle tristesse. C'est vraiment, c'est que du quantitatif finalement. À partir, en parallèle ou en contradiction, pardon, avec des personnes qui font des activités qui les éclatent et qui ne sont pas rémunérées. Alors même qu'elles sont essentielles et qui reçoivent de la reconnaissance, des merci. Et donc là, on pose vraiment le problème de ce découplage entre revenus et emploi. Donc, essayez de transformer vos « il faut, je dois » en « je choisis deux ».
Eh ben, je te propose une petite chanson pour laisser nos auditeurs le temps de réfléchir à
yes.
tout ça. Riss et Barrier.
Un sou, ça n'est plus un sou comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, les sous, on les voyait pas souvent. Le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas.
Oui, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules, maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros, paf, ils vous foutent dans une tranche supérieure d'impôt. Oli, vache, bon sang, bon soir.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, quand on allait vendre ses pommes de terre, c'était au bistrot devant une chopinée de verre. On se tapait dans la main pour conclure le prix. Paf, parole de nez, cochon qui s'en dédie.
Oui, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, pour vendre le fromage de nos biques, faut se servir d'une calculatrice électronique. Car s'il y a de la hausse dans le dollar américain, et bon, il y a de la baisse dans le reblochon et dans le crottin. Oli, vache, con, sang, bon, soir,
y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, on se mariait pour faire des enfants, et la fiancée était choisie par les parents. Oh, c'était bien si elle avait de jolis tétons, mais l'important, c'est ce qu'elle mettait dans le corbillon.
Oh, ouais, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, la femme doit tenir la caisse. Ma Germaine à moi, c'est la reine du show business. Elle dit que pour s'enrichir, il faut s'endetter. Quand elle l'a dit, ça, le grand-père a ben failli claquer.
Oh, sang de bon soir, y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Un sou, je n'ai plus un sou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman. Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de la langue.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent.
Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher, les petits voyages en Suisse.
Et voilà, c'était Riss et Barrier sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission Tous Essentiels consacrée aux revenus de base et que vous pouvez retrouver tous les premiers lundis matin de 8 à 9. C'est ça? Ah, excuse-moi.
Co-créatrice de Ways to Shift, et j'aimerais savoir, à travers voilà, ce que je viens de dire, toi, à travers les études et le travail que tu fais, est-ce que tu peux nous dire quel est le lien que tu vois entre transition écologique, emploi et revenu de base?
Bonjour, ça marche, oui, ça fonctionne. Oui, alors en fait, donc il y a effectivement un enjeu qui est considérable autour de l'emploi en lien avec la transition écologique et qui est d'ailleurs un enjeu qui est souvent assez sous-estimé et qui a d'abord à voir avec le fait qu'une des grandes craintes de la transition écologique, c'est qu'elle soit destructrice d'emploi. Et en l'occurrence, c'est une crainte qui est fondée, puisque si on parvient à engager les transformations nécessaires pour répondre aux enjeux écologiques et pour tenir les objectifs de l'accord de Paris de 2015, ça coûtera certainement des emplois. Je vais citer qu'un chiffre qui est celui du Shift Project, qui dans le cadre du PTEF, donc le PTEF, ça porte sur 11 secteurs de l'économie, qui représentent à peu près 45% de l'emploi. PTEF, oui, pardon, le plan de transformation de l'économie française. Le Shift Project prévoit que la décarbonation de ces 11 secteurs impliquerait la destruction de 800 000 emplois. Donc on n'est que sur 11 secteurs et on n'est que sur la décarbonation. Il y a quand même tout un tas d'autres enjeux écologiques qui ont aussi un impact sur l'emploi. Mais ça donne un peu une idée des ordres de grandeur. Et ça explique aussi les réticences qu'on peut avoir à mettre en place ce genre de mesures et en quoi l'emploi, du coup, peut faire blocage pour la transition écologique, peut freiner la transition écologique parce qu'au nom de la préservation de l'emploi, on se refuse à prendre certaines mesures. Mais on peut mettre cette crainte en perspective avec ce qui risque de se passer côté emploi si, du coup, on ne fait rien. C'est-à-dire, est-ce que le statu quo peut éviter la destruction de l'emploi? Et la réponse est très certainement que non. Si on décide de ne pas prendre les mesures nécessaires pour faire face aux défis écologiques et climatiques, on va de facto arriver à une situation de destruction de l'emploi. On en voit d'ailleurs déjà les prémices, surtout ailleurs dans le monde. L'inaction fait peser un risque considérable sur l'emploi puisque l'emploi est intrinsèquement lié au milieu naturel et que ce soit la raréfaction des ressources, la déforestation, le stress hydrique, les catastrophes naturelles, tout ça, ça a un impact direct sur les conditions de travail, mais aussi sur les outils de travail et sur la productivité. Je vais donner un autre chiffre qui est celui de l'Organisation internationale du travail, qui a estimé dans un rapport de 2019 que dans la perspective d'une hausse de 1,5 degré d'ici à la fin du 21e siècle, le stress thermique entraînerait la destruction de 2,2% des heures de travail à l'échelle mondiale, ce qui représente 80 millions d'ETP, d'équivalents temps plein. Donc finalement, quel que soit le scénario choisi, celui de l'inaction ou celui de l'action, on va à un moment donné être confronté à des destructions d'emplois importantes. La différence, c'est que ce sera beaucoup plus brutal si on ne fait rien et si on attend que ça arrive, et qu'aujourd'hui, on est quand même en mesure de les anticiper, de les planifier, de les accompagner pour faire en sorte justement d'amortir les chocs pour les individus. Et donc la question, c'est finalement comment est-ce qu'on peut compenser ces pertes d'emplois pour atténuer autant que possible les chocs et en quoi est-ce que le revenu de base représente un outil intéressant, voire indispensable pour accompagner ces chocs et ces destructions d'emplois, enfin ces transformations de l'emploi en tout cas. Donc bah, d'abord, assez logiquement, parce que il permettrait effectivement d'assurer une sécurité financière aux personnes qui risquent de perdre leur emploi. Voilà, ça c'est assez simple. Et ensuite, parce qu'il permettrait aussi d'accompagner les transitions professionnelles pour favoriser un retour à l'emploi rapide, mais pas forcément à l'identique que dans la situation actuelle. Parce qu'en fait, un des grands enjeux de l'emploi dans le contexte de transition écologique, c'est de parvenir à rediriger les compétences et les métiers pour répondre aux besoins émergents. Donc effectivement, la transition écologique implique que certains secteurs doivent ralentir, voire disparaître, mais ça implique aussi que d'autres doivent se développer. On pense à l'agriculture, on peut penser aux bâtiments, aux énergies, à tout ce qui est préservation de l'environnement. Il y a énormément d'emplois et de compétences qui doivent être redirigés pour venir soutenir la transition écologique. Et il y a énormément à faire pour accompagner ces transferts-là. Aujourd'hui, on est quand même très, très en retard sur le sujet. Je vais citer à nouveau les chiffres du Shift Project. La décarbonation des 11 secteurs du plan de transformation de l'économie française pourrait amener la création de plus de 1 million d'emplois, soit un delta de 300 000 emplois, donc une création de 300 000 emplois si on compare avec les 800 000 emplois détruits. Donc tout ça, c'est encore une fois si la décarbonation a lieu. Mais le problème, c'est que ces transformations, elles n'auront lieu que si on parvient à déployer des stratégies pour les accompagner, et en particulier pour soutenir les individus dans leur transition professionnelle. On sait que se reconvertir, ça constitue un risque financier. D'abord parce que ça implique une période plus ou moins longue hors de l'emploi, mais aussi parce que souvent, ça implique de se retrouver dans une situation professionnelle qui est moins favorable que celle de départ, parce qu'on a moins d'expérience, ou parce qu'on se lance dans un projet entrepreneurial qui est risqué, qui rémunère pas au début. Ça implique aussi parfois des formations qui sont pas forcément finançables. Donc, voilà, ça amène pas mal de personnes qui engagent des reconversions à finalement puiser dans leurs propres ressources pour pouvoir financer ces formations, ce qui implique aussi des inégalités entre les personnes qui peuvent se le permettre, qui ont un matelas financier ou qui ont pu faire une rupture conventionnelle de contrat, qui ont le temps de voir venir, et d'autres personnes qui n'en ont pas du tout la possibilité. Donc là encore, le revenu de base pourrait apporter un filet de sécurité qui permettrait peut-être de lisser ces inégalités et d'éviter d'avoir plusieurs vitesses sur les métiers de la transition écologique. Donc voilà, donc finalement, le revenu de base, c'est à la fois, ça permettrait à la fois d'amortir le choc des reconversions qui sont subies et en même temps d'essayer d'encourager des reconversions choisies et en soutien et compatibles avec la transition écologique et sociale. Et j'aimerais aussi ajouter un point qui est sensible mais qui me semble primordial pour renforcer donc les questions entre revenu de base et transition écologique. Et ça rejoint ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est que on vit dans une société où la place de l'emploi est telle que la préservation de l'emploi est un objectif qui est prioritaire. Et pourtant, on sent bien aussi que le modèle, il est quand même à bout de souffle. On a du chômage structurel depuis un certain paquet d'années. On a aussi de plus en plus de mal-être au travail, qui sont quand même très perceptibles pour les personnes dont je fais partie, qui travaillent sur ces sujets au quotidien. On a de l'emploi, des transformations de l'emploi aussi quand même assez incroyables avec l'automatisation et les transformations numériques qui amènent aussi beaucoup de destruction d'emploi. Donc on n'est pas franchement dans une situation où on peut se dire l'emploi va bien, on n'a pas intérêt à le mettre en danger. L'emploi est déjà en danger et on constate par ailleurs justement que le culte de la vitesse, de la productivité, de tout un tas de choses qui font qu'on en est là où on en est aujourd'hui, et ben c'est de plus en plus délétère, autant pour l'environnement que pour le bien-être des personnes qui habitent cette planète. On a besoin de ralentir, et je dis ça alors que je parle très vite, on a besoin de ralentir, on a besoin de retrouver le temps de faire pour soi, et ça implique de repenser la place du travail et de l'emploi dans la société aujourd'hui, de valoriser autrement le travail domestique, ça a été évoqué tout à l'heure, le travail bénévole aussi, la liberté en fait de chacun et de chacune juste de disposer de son temps, tout simplement. Et en fait, c'est quelque chose qui me semble absolument essentiel pour réussir les transitions écologiques et qui est quand même assez souvent oublié ou qui est vu comme quelque chose d'utopique ou d'annexe ou de ce serait sympa si. Mais le problème, c'est que pour ça, on a vraiment besoin de bâtir des nouveaux imaginaires. Et là encore, en fait, le revenu de base, il vient ouvrir des portes qui sont intéressantes. J'allais aussi évoquer, comme Virginie, cette croyance que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais c'est une croyance qui, selon moi, est infondée. Donc voilà, que plus personne travaillerait et qu'on se la coulerait tous douce s'il y avait le revenu universel. J'y crois pas du tout parce que on travaille pas que pour le revenu. On travaille parce que on a besoin d'être utile pour la société, pour trouver notre place, pour apporter quelque chose, pour être en lien avec d'autres. Et donc, y a pas que le travail qui peut apporter ça. Et donc, peut-être qu'on le fera plus avec l'emploi, en tout cas, parce qu'encore une fois, travail-emploi. Mais on le ferait en faisant d'autres choses pour soi, pour son foyer, sa communauté, la cité, pour du bénévolat, pour faire son potager, pour tout un tas de choses qui sont pas du tout futiles, qui sont pas du tout égoïstes. Et moi, je suis personnellement, enfin profondément convaincue qu'on redirigerait nos énergies, pas toutes, il ne s'agirait pas, voilà, on a aussi besoin de temps libre, on a aussi le droit d'avoir du temps libre, et tant mieux si on peut en avoir plus. Je crois pas du tout que le revenu universel viendrait accroître la surconsommation et les heures regardées sur Netflix. Mais tout ça, je pense que c'est une révolution qui est incontournable si on veut être en mesure de relever les défis écologiques. Ça veut dire donc que tout le monde doit pouvoir accéder à cette liberté de disposer de son temps autrement. Donc ça implique notamment une redistribution du travail. Donc là, tout le monde, il est bien important. Et il y a beaucoup de croyances à déboulonner qui sont bien ancrées dans notre histoire collective, dans notre histoire culturelle. Et je pense que le revenu de base, ça peut être un outil concret qui permet au moins d'ouvrir les discussions. et d'envisager concrètement comment est-ce qu'on peut rendre ces transformations qui sont très compliquées parce qu'elles viennent vraiment toucher des croyances qui sont profondes parce qu'elles éveillent beaucoup de passion et qu'on a tous un rapport au travail qui est extrêmement fort et c'est des débats qui sont compliqués. Mais je pense que le revenu de base, ça peut vraiment venir ouvrir des portes pour voilà, poser le sujet sur la table et en parler un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui.
Merci Noémie Pasquale-Martin, parce que elle l'a témoigné, donc elle travaille beaucoup sur toutes ces questions-là. Vous avez entendu qu'elle évoquait les chiffres du Shift Project. Je vous propose d'aller sur leur site. Ils ont fait un travail monumental pour accompagner notamment les communautés locales et territoires pour justement s'engager dans la transition écologique, avec vraiment dans le détail tout ce qu'on va devoir changer au quotidien, dans la culture, dans la santé, dans l'éducation, etc., pour décarboner. Donc ça, c'est le premier pas de la transition écologique. Donc là, elle intervenait, puisqu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle intervenait lors du colloque que le Mouvement français pour le revenu de base a animé en décembre à l'Assemblée nationale. Donc vous pouvez retrouver ses travaux sur Internet. Donc j'ai envie de rebondir là-dessus parce que on voit bien qu'il y a déjà un bouleversement du monde du travail dû au capitalisme. On l'a bien vu, des agrégations des conditions de travail, etc. Mais en fait, là, on se retrouve devant quelque chose qui nous échappe et qui échappe même à ceux qui pensent tenir la main aujourd'hui. C'est les changements climatiques qui vont de toute façon bouleverser le marché du travail, avec plein de guillemets évidemment. Et je fais vraiment le lien parce que même Greta Thunberg, dont on entend quand même beaucoup parler parce qu'elle a réussi à redonner un souffle à ce combat et surtout à représenter une jeunesse beaucoup plus militante que certains, qui a adressé une demande à tous les États du monde et qui concluait donc toutes ces demandes sur évidemment la protection de l'environnement, la réduction de nos effets de serre et de nos consommations générales. Sa dernière demande, c'est de sécuriser l'humain au-delà justement de tous ces changements que nous allons avoir à faire. Donc je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ce lien? Comment est-ce qu'on pourrait réconcilier les gilets jaunes et les gilets verts, les syndicalistes et les chômeurs, les entrepreneurs et le petit maraîcher du coin? Revenu de base?
Mais oui, quelle bonne idée. Mais justement, on n'y avait pas pensé.
Ça me vient comme ça, là, maintenant.
Oui, ben je reviendrai sur ce qui a été dit là maintenant, sur la notion d'oisiveté. Je pense effectivement que, moi je crois fortement que l'oisiveté peut ouvrir à pas mal d'écueils. Mais quelle oisiveté? Pour moi, c'est l'oisiveté contrainte qui va pousser les gens. Quand on dit l'oisiveté la mère de tous les vices, c'est quand elle est contrainte.
Quand c'est subi, quoi.
Subi. Par manque d'emploi, et je pense beaucoup par manque de considération, puisque on voit qu'aujourd'hui les gens qui sont exclus de l'emploi se sentent aussi exclus de la société, et ce sont pas les personnes qui participent le plus volontiers aux associations, aux bénévolat, etc. Il y en a heureusement, mais je pense que ces gens sont humainement dégradés par la non-reconnaissance de la société. Et ça peut générer effectivement beaucoup de problèmes, que ce soit l'alcoolisme ou autre, etc. Ça, on peut le voir aussi. Donc, ça, je pense qu'il faut relativiser. Mais à partir du moment où, c'est vrai qu'avec un revenu garanti, chacun devient de fait libre de pouvoir accéder à d'autres activités forcément que l'emploi. Ceci dit, ça doit être quand même reconnu dans une société qui doit évoluer vers plus de reconnaissance de l'être humain, en dehors aussi de cette notion unique de l'emploi. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs la valeur de l'emploi et la valeur du travail. Mais bon, je pense que c'est un changement de paradigme aujourd'hui qui est imposé à notre société. On sait que, on l'a vu bien dernièrement, que le pognon, il en manquait pas. Je veux dire, quand on veut en trouver, il y en a suffisamment. Quand on entend parler des ultra riches qui sont de plus en plus riches, et alors que les pauvres le sont de plus en plus aussi. Combien de de milliers, de millions, de milliards de personnes en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui, et quelques personnes qui sont tellement immensément riches qu'ils n'ont, je pense, pas suffisamment, ils n'en prennent pas suffisamment conscience. Donc du pognon, il y en a. Il faut changer justement cette manière de voir les choses et repartager un petit peu toute cette richesse produite. Et je rappelle quand même, en tant que syndicaliste, que la richesse produite, elle est produite par ceux qui sont au travail.
Plus que ce par soit toutes l'emploi les générations précédentes,
ou en l'emploi, c'est ceux qui créent quelque chose, c'est eux qui sont producteurs de richesse et pas ceux qui sont derrière un écran de bourse, quoi.
Tout à fait. J'ai envie de faire le lien entre deux personnes qui se sont rencontrées d'ailleurs, qui ont fait un débat. Donc il y a Bernard Friot, dont on parlait du réseau salariat et du salaire à vie, qui part du principe qu'on est tous producteurs. Et il a débattu une fois, vous pouvez le retrouver sur Internet, avec Baptiste Milondeau, qui est un économiste de Bordeaux, qui dit lui que le revenu inconditionnel défend l'idée que toute activité humaine est créatrice de richesse. Et si chacun d'entre nous est créateur de richesse, alors tout le monde doit avoir une part de la richesse produite. Et donc voilà, donc effectivement, si on réussit à au moins quelques-uns à penser différemment, que le revenu de base soit instauré, on pourra effectivement, juste à travers cet outil-là, créer autre chose. J'ai envie de lancer quand même un dernier appel. Souvenez-vous qu'il y a encore une initiative citoyenne européenne. Donc je lance un appel fervent à tous les syndicats et les syndicalistes. Parce que figurez-vous qu'en Slovénie, les syndicats se sont emparés de cette question et ça a été le premier pays, au bout de 3 mois, à même dépasser son quota de signatures. Alors nous, en France, mais que fait-on ? On a l'Allemagne, on a l'Italie, on a l'Espagne qui nous dépasse, mais de 3 à 4 enjambées. Donc allez, on se ressaisit, on va sur revenudebase.info et on signe l'initiative citoyenne européenne avant le 25 juin, s'il vous plaît. Je rajoute aussi une parenthèse, c'est que sur le site revenudebase.info, si jamais vous aviez encore un petit doute, parce que Bernard est passé un peu vite là-dessus, mais sur le fait que ce soit finançable, il y a un nouvel outil que vous pourrez tester. Vous allez pouvoir choisir votre revenu de base préféré en répondant à quelques questions et vous serez orienté vers 3 propositions de revenus de base qui existent, qui sont proposées par des Français, économistes ou pas, et qui vont vous prouver par A plus B que c'est finançable.
Ah, c'est bien ça. Bonne nouvelle.
Je voudrais quand même faire une précision là-dessus, parce que quand tu parles de l'ICE, pour rappeler un peu aux syndicalistes ou d'autres personnes qui seraient un peu réticentes ou qui se poseraient des questions sur le revenu de base, c'est que l'ICE c'est une démarche qui ne va pas imposer l'application brutale d'un revenu de base. L'ICE a pour but de contraindre la Commission européenne à lancer une recherche expérimentale sur le bien fondé ou pas d'un revenu de base. Et je pense que là, même si on se pose des questions, si on a des doutes, tout le monde a intérêt quand même à ce que officiellement on ait une recherche sérieuse sur cette question. Je pense que c'est bon de le préciser.
Mais tout à fait. Eh bien, nous, on se retrouve le mois prochain, sans doute.
Oui, bien sûr, au mois de juin. Ce sera peut-être le mois de la culture avec, je crois qu'il y a la fête de la musique. Il n'y a pas un truc comme ça en juillet?
Ah, mais ça doit être un truc comme ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Et on va d'ailleurs se quitter en musique avec l'Inconsolable qui interprétait il y a quelques temps maintenant cette chanson qui était « On vaut mieux que ça ». C'était la grande période de « On vaut mieux que ça ». Allez, c'est parti et bonne semaine, bon mois à vous toutes.
Merci beaucoup, bon travail.
Au revoir.
Au revoir.
La réforme du code du travail,
on veut mieux que ça.
C'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles,
on veut mieux que ça.
Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille,
non, on vaut mieux que ça.
Qu'on laisse gouverner le patronat,
on vaut mieux que ça.
Qu'une cesse nous gouverner par vos lois,
on vaut mieux que ça.
Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits,
on vaut mieux que ça.
La loi et le Khomri,
on vaut mieux.
Et toutes ces conneries,
on vaut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu nous,
on vaut mieux que ça.
Que toute leur tromperie,
on vaut mieux.
Ça paye pas le bon prix,
on vaut mieux.
On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais,
on vaut mieux que ça.
La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière qu'en euros. La pyramide de refaut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée,
on vaut mieux.
Repos et euros à journée, non,
on vaut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les heures partielles à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres acquittent à cœur que cette loi vise à jouer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se bourrer. C'est pas pour aider le salarié car on veut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en avirer les salariés sans quoi la barque et sans s'échavirer. Pour prétendu motif économique au mieux de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison des autres.
On veut mieux que ça.
Passer de 10 à 12 heures de travail par jour.
On veut mieux.
L'extension du dispositif forfait jour.
On veut mieux.
Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour.
On veut mieux.
Une patron jacou.
On veut mieux.
Ouais.
On veut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser.
On veut mieux que ça.
S'enliser dans l'entreprise et se mépriser.
On veut mieux que ça.
S'échiner.
Mieux que ça.
Et se ruiner.
Mieux que ça.
Et trimer pour déprimer puis déprimer.
On veut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons.
On veut mieux que ça.
Sous les recommandations d'Emmanuel Macron.
Il vaut mieux pas.
Chez Fayon.
On veut mieux que ça.
Et la pompe, c'est ça qu'on compte en fait d'affront.
On veut mieux que ça.
Faire taf, non.
On veut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure,
on veut mieux que ça.
On veut mieux que bosser au McDo, que mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado.
C'est vrai qu'on veut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier.
Et on veut mieux que ça.
D'autres pouvoirs pourront pallier, tant ils vont voir qu'on est panier si on se laisse les accompagner.
Car on veut mieux que ça.
Grève générale, ad vitam aeternam, vas-y Paris réclame, d'abdique Paris c'est le drame. Pour la bourgeoisie, car Ricard qui fabriquait sa gamme, qui a trimé pour ses produits et sa gamme. Sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là. On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix.
On vaut mieux que ça.
Ouais.